Michel Audeban, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Genway Asset Management. On va parler avec vous d'actualité sur les marchés émergents. C'est votre effectivement spécialité. Avant de parler peut-être de valeur avec vous, vous constatez un attrait, un nouvel attrait d'investisseurs sur les marchés émergents? Ils y sont revenus ou pas encore?
Il commence à y revenir. Pour être simple, je ne connais pas beaucoup d'investisseurs qui sont surpondérés sur les émergents, aucun aujourd'hui. Par contre, ils étaient très largement sous-pondérés, voire absents des émergents pendant 4 ans, et ils ont eu raison. Les émergents ont sous-performé depuis 2011. Et là, on voit maintenant, depuis 2 mois, c'est récent, hein, un petit peu février, mais surtout depuis 2 mois, un début de retour, c'est-à-dire qu'ils commencent à couper leur sous-pondération.
Donc là, on était plus à une question de flux. Ils les avaient délaissés, ils y reviennent petit à petit sans forcément avoir pour l'instant une conviction solide.
Alors, en flux, il y a eu 20 milliards de collectes sur les fonds actions émergentes en 2 mois. Il y avait eu 150 milliards de rachats entre 2013 et février 2016. Conviction, si, je pense qu'il commence à y avoir, parce que tout cela a été étayé par une ou deux petites choses. La première, c'est qu'on commence à retrouver de la surperformance sur les émergences, ça aussi qu'on n'avait pas vu, on n'avait pas eu cela depuis très longtemps. Mais surtout, plus fondamentalement, en parlant de micro, sans encore parler de société, les marges des entreprises émergentes qui avaient baissé, divisées par deux pour simplifier depuis 2011, c'était déjà stabilisé en début d'année, et là, sur les chiffres de juin, on commence à voir un retour. Donc ça, ce sont de vraies raisons de faire à nouveau confiance à ces pays. Surtout, ce n'est pas nouveau que les valorisations sont basses, mais une valorisation basse, quand vous révisez à la baisse les résultats tous les ans, ça ne veut pas dire grand-chose. Quand vous commencez à stabiliser, voire même qu'il commence à y avoir des surprises à la hausse, ce qui est le cas aujourd'hui, des bonnes surprises, la valorisation prend tout son sens.
Oui, parce qu'il y a quelques années, on nous vendait en quelque sorte les marchés émergents comme il y a de la croissance, donc allez-y, en gros les yeux fermés, quoi. C'était un petit peu ça, dans certaines gestions en tout cas.
Oui, mais ça a été un discours très répandu. Et puis on s'est rendu compte, sûrement vers la Chine, que croissance, ce n'était pas égal forcément à performance, au moins à court terme. Enfin, en tout cas, que tout ça était un petit peu plus compliqué. On a eu une période de très forte croissance, voire d'hypercroissance en Chine. Et à la fin de cela, en 2011, la bourse chinoise était au plus bas quasiment. Donc très vite, on s'est rendu compte que si on allait sur les émergents, il fallait chercher autre chose. La première réaction était de dire, bien, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Vous avez raison. Et là, aujourd'hui, je crois qu'on a des investisseurs qui reviennent avec de vraies bonnes raisons moyen terme.
Du côté justement des entreprises sur les différents marchés, vous, quand vous les regardez, quels sont vos critères d'analyse? Est-ce que ça pourrait être le même que si vous aviez l'analyse d'une société du CAC ou c'est différent?
Ça pourrait être la même. On commence quand même par la gouvernance. Alors, sur les sociétés du CAC, j'en connais peu quand même qui ont des problèmes de gouvernance. Dans les pays émergents, il est important pour nous, en tout cas, hein, c'est ce que fait Bruno Vanier, qui est le responsable de la gestion depuis un peu plus de 25 ans maintenant, c'est commencer avec un premier critère de gouvernance. En un mot, Gazprom, Petrobras, on estime que la gouvernance n'est pas satisfaisante, on ne regarde pas. Peu importe la valorisation, les perspectives. Premier point également que l'on regarde, ce sont les risques sur le business model. Et là, voyez plutôt, cette fois, l'environnemental. Le risque environnemental qui n'était pas vraiment pris en compte. Enfin, ça va faire à peu près 8-10 ans que Bruno le prend en compte. Mais on voit bien qu'une cimenterie en Chine, si elle déverse tout dans le fleuve à côté, bien sûr, le jour où il va falloir filtrer, et on y arrive aujourd'hui, les résultats s'en ressentiront, mais peut-être que le business model de base n'a plus de sens. Peut-être qu'une fois filtré, eh bien, la rentabilité économique de la société serait nulle. Donc on commence par la gouvernance. Très rapidement, derrière, on regarde des santé financière satisfaisante, c'est-à-dire pas endetté, surtout pas endetté en devise forte. Et en fait, ce que l'on cherche, ce sont des cash flows, sociétés qui vont générer des free cash flows, c'est-à-dire au-delà des besoins d'investissement. On va regarder la valorisation, mais c'est vraiment le dernier critère.
Est-ce que dans le lot, justement, il y a des secteurs qui se distinguent ou c'est vraiment valeur par valeur?
Alors, on n'a pas d'approche sectorielle, si c'est votre question. On ne se dit pas, tiens, on veut trouver une société dans tel secteur. Donc, c'est vraiment à la base du stock picking. Quand on regarde la surperformance, qui est un peu plus de 17% depuis la création, les 2 tiers viennent du stock picking, 1 tiers vient de l'allocation pays devise. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des secteurs que l'on aime. Et donc, quels sont les 2-3 secteurs que nous trouvons très intéressants aujourd'hui? Le premier, c'est la moitié de notre exposition à la Chine. On a à peu près 28% sur la Chine. On a un peu plus de 15% sur Internet en Chine. Pour simplifier, il y a 2 pays dans le monde sur lesquels il y a des sociétés cotées dans le monde Internet avec des tailles importantes, les États-Unis et la Chine. Et la Chine a une croissance exceptionnelle d'Internet. Je rappelle que Tencent, qui est la première capi chinoise aujourd'hui, vient de rentrer il y a 15 jours dans le top 10 des capis mondiales. C'est la seule valeur non américaine dans le top 10. C'est une très belle valeur pour nous, hein. petit peu un Facebook chinois pour simplifier, mais avec beaucoup d'autres services. On voit une très belle croissance pour Internet en Chine dans les années à venir. Le montant total de transactions sur Internet en Chine a déjà dépassé les États-Unis de plus de 40%. Donc c'est un marché très important.
Oui, quand on a tendance à parler des GAFA pour parler de ces boîtes américaines, mais on pourrait retrouver quasiment un équivalent chinois.
Il y a l'équivalent, l'acronyme existe, donc il reprend Baidu, Alibaba, Tencent, JD, bien sûr. Ça, c'est un secteur, le secteur de la santé, particulièrement en Chine aussi, nous paraît très intéressant. Malheureusement, enfin, la population vieillit différemment et plus, de manière plus importante qu'en Inde, par exemple. Malheureusement, il y a des problèmes de pollution, donc tout ça crée des problèmes de santé. Il y a de très beaux laboratoires pharmaceutiques, c'est une thématique que nous aimons bien. Deux dernières thématiques pour aller à l'essentiel. La première, c'est l'assurance vie. En fait, la thématique du fond, c'est tirer profit de l'enrichissement et du développement des classes moyennes dans les pays émergents. Et lorsque le pouvoir d'achat s'améliore, eh bien, ils sont comme nous, hein, ils commencent à se préoccuper de leur retraite, des études des enfants. Il n'y a pas de système de sécurité sociale aussi bien organisé que chez nous. Et donc l'assurance-vie commence, on en est vraiment au balbutiement. Je pense à une société, par exemple AIA, qui est un de nos principaux titres en portefeuille, American Insurance Asia, qui était dans le groupe AIG avant Lehman, qui a été spin-offé d'AIG à ce moment-là, qui est totalement indépendant, qui pèse 80 milliards de capitalisation, donc ce n'est pas un petit groupe, présent, ASEAN, Hong Kong, Singapour, Chine, très forte croissance, magnifique management anglo-saxon, qui se développe très fortement, voilà, ou Ping An Insurance en Chine. Dernière thématique, et donc sur l'assurance vie, il y a à peu près 11% du portefeuille investi, dernière thématique, l'automobile. On vit une révolution dans l'automobile, que ce soit l'électrique, qui entraînera évidemment de nouveaux acteurs, en particulier on regarde le composant, et qui entraînera la disparition d'un certain nombre de fabricants. Les gens qui font des transmissions demain seront des Kodak, n'auront plus de marché. Hein. Ou que l'on regarde bien sûr tout ce qui est véhicule autonome, aide à la conduite. Et là aussi, il y a des perles que nous sommes. On a 11% du portefeuille aujourd'hui sur ce secteur.
Pour terminer, est-ce que vous regardez aussi des PME, ETI des pays, dans les pays émergents aussi? Ou est-ce que pour le coup, vous parliez de risques tout à l'heure, il y a peut-être plus de risques?
Alors, ça dépend où vous mettez la barre. On ne regarde pas, pour des raisons de risque de liquidité, de sociétés à moins de 500 millions de dollars de capi et 500 millions de dollars de chiffre d'affaires et 1 million de dollars de transactions jour. Ça veut dire que vous passez globalement de 20 000 sociétés cotées dans les marchés émergents à 2 000. Dans ces 2 000, il y a quand même des sociétés qui ont des capitalisations boursières de 800 millions, 1 milliard, 2 milliards. Donc des PME, des belles PME. Oui, on regarde ces sociétés-là et il y a de très belles choses. Dans de nombreux secteurs, dans le domaine des composants par exemple, hein, on est majoritairement sur des PME.
Merci Michel Audeban d'avoir fait le point avec nous.
Merci Didier, bonne journée.